conférence privée du noviciat par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 19 novembre 1992.
Lorsqu'on obéit, on est au niveau des intentions. de celui qui nous commande. Et donc, en obéissant, on augmente sa capacité d'aimer, puisque on s'élève au niveau de celui qui nous commande. Alors, quand il s'agit du Fils bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'il peut entrer pleinement dans les intentions du Père. Et ça explique, je crois, du moins personnellement, je l'explique de cette manière, c'est que, de fait, Jésus, en accomplissant la volonté du Père sur la croix, acquiert l'expérience d'une nouvelle liberté, une liberté intérieure plus grande, qui explique le don de mal, le guérissement. Il est capricieux aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Mais... Alors, pourquoi l'ami comme ami n'existe-t-il pas? N'exerce-t-il pas une certaine autorité? N'est-il pas aussi responsable de son ami? Oui, il est responsable de son ami, mais c'est pas à cause de ça qu'il exerce une autorité. L'amour d'amitié comme tel n'implique pas d'autorité. C'est comme la paternité. Mais ça, je crois que c'est très important. C'est la liberté même qui existe entre amis. Alors, on peut dire à son ami, ça tout à fait, on peut lui donner une certaine autorité. Entre époux et épouse, c'est un amour d'amitié au sens fort, et c'est l'épouse qui peut dire à l'époux, dans ce domaine-là, tu es bien plus raisonnable que moi, bien plus prudent que moi, exerce son autorité. Et l'époux peut dire l'inverse à l'épouse, dans l'ordre de l'éducation des tout-petits, tu es bien plus intelligente que moi, bien plus proche, exerce ton autorité. Oui, je crois que... Et ça, ça me semble être très très fort. Une amitié vécue pleinement avec un réalisme de la complémentarité qu'il peut y avoir dans l'amitié. Et cette complémentarité permet par le fait même de demander à l'un ou à l'autre dans les domaines respectifs. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que l'amour d'amitié, même au plan surnaturel, vous voyez, exerce une autorité. Je ne crois pas. Il me semble que c'est ce qu'il y a justement de très très beau. L'autorité n'est jamais quelque chose qui est suprême. C'est l'amour. L'amour dépasse l'autorité. Dans la très sainte Trinité, il n'y a pas d'autorité. Et l'autorité de Dieu et du Père commence avec l'humanité sainte de Jésus. Et pour l'humanité sainte de Jésus, pour son peuple, pour les hommes, et pour l'humanité sainte du Christ. Et le Père exerce l'autorité à partir du moment où, justement, il y a l'éducation. Alors, vous voyez, je comprends que responsabilité, donc autorité. Attention, la responsabilité peut s'entendre de deux manières. Il peut y avoir une responsabilité parce que vous êtes plus compétent et que vous exercez une certaine autorité. D'accord. Mais il peut y avoir une responsabilité plus éminente qui est dans l'ordre uniquement de l'amour. Mon père, vous avez parlé de notre coopération après la décision du prieur. Pourriez-vous nous parler de notre coopération avant? Comment en particulier vivre de l'obéissance au chapitre? Je pense au chapitre dans un prieuré apostolique et non pas dans le temps de formation. Oui. Au chapitre C'est donc de l'ordre du conseil. On exerce sa responsabilité dans l'ordre du conseil. En disant, après avoir prié, après avoir réfléchi, en disant, il me semble bien que telle décision serait bonne. Mais avant le chapitre général, puisque on vient tous préparer au chapitre général, hein, avant le chapitre général, on mobilise toute la communauté, même les novices. Et les novices sont mobilisés pour le chapitre général. Ils n'y assistent pas, ils sont mobilisés divinement. C'est Saint Benoît qui dit dans sa règle que l'abbé doit toujours être à l'écoute des novices parce qu'ils sont une fraîcheur de regard que n'ont plus les autres. Et c'est vrai, ils ont une fraîcheur de regard que n'ont plus les autres et donc on doit les écouter plus. Du moins, on doit leur demander. Ce qu'ils ressentent davantage, ce qui les déçoit. Alors on voit tout de suite ce qui les déçoit, simplement dire tout simplement qu'on avait un projet idéal d'une communauté. Comme une communauté Saint-Jean doit être une communauté idéale. Patatras, c'est pas ça du tout. C'est la communauté des pauvres. On avait pensé que c'est la communauté des riches. C'est pas ça. C'est la communauté telle que Jésus la réalise actuellement. On n'a pas de projet. Aucun. Dans du point de vue, pour recevoir ceux qui demandent qu'après les. Quand on. Formation d'a priori. J'ai pas pris une carte avant en disant voilà en France, vous voyez. Et puis. Retour, puis après, non, c'est pas comme ça. Je crois qu'on doit être docile au Saint-Esprit. Et en recevant les frères, on est docile au Saint-Esprit, puisque chacun est un envoyé de l'Esprit Saint. Chacun est un envoyé de l'Esprit Saint, non pas pour imposer. Il y a des choses qui vont pas dans le Saint actuellement, ça va pas du tout. Il va dire ça au Père Prix, au maître des novices, il y a quelque chose qui va pas du tout. Il peut pas dire ça. Ce serait faux. C'est pas exact. Mais il donne conseil. Et on voit tout de suite si le conseil qu'on donne est sous l'inspiration du Saint-Esprit ou si tout simplement une revendication. Si c'est une revendication, vite le petit papier à la bannière, on l'enlève. On le jette dans le panier. Si c'est un appel de l'Esprit Saint, on tient compte. Et on doit discerner. Et on a la grâce pour discerner. Mais on doit, je crois, un novice fervent au point de la charité fraternelle doit voir ce qui demanderait d'être changé, d'être modifié. Avec une très grande simplicité, une très grande pauvreté. Donc, vous voyez, coopérer avant, c'est de l'ordre du conseil. Coopérer après, c'est de l'ordre de l'efficacité. Le conseil est de l'ordre de l'intelligence. C'est l'intelligence qui donne conseil. Alors, il y a un côté affectif dans tout conseil, c'est évident. Mais. Conseille tel ou tel moyen, telle ou telle petite réforme. Alors ça doit se faire avant. Et ça se fait déjà même ici, et ça doit se faire même ici. Il y a le conseil restreint, et puis il y a la communauté qui dansait. C'est pas bizarre, alors pour le chapitre, on écrit. On demande que ce soit écrit. Soit signé pour que ce soit plus sérieux. philosophique et dans l'ordre de l'exercice. Qu'est-ce qui spécifie l'obéissance de fort externe par rapport à l'obéissance du citoyen? Qu'est-ce qui spécifie l'obéissance de fort interne par rapport à l'obéissance filiale? Ah, oui, très bonne question. Donc au plan philosophique, qu'est-ce qui spécifie l'obéissance de fort externe à la différence de l'obéissance citoyenne? L'obéissance du citoyen. L'obéissance de fort externe dans la vie religieuse assume l'obéissance du citoyen. Un prieur verré, un de ses religieux, ne pas appliquer la loi, par exemple dans la conduite des autos, là, ça relève de son fort externe. L'obéissance politique est assumée par l'obéissance de fort externe religieuse. l'obéissance de force externe religieuse va plus loin que l'obéissance politique. Puisque, en tant qu'on y joue, vous restez un citoyen de votre pays. Vous restez capable de voter anciennement au Moyen-Âge. Un religieux de vœux solennels ne votait plus. Et dérayer les cadres. C'est la petite réaction que j'ai eue, je me souviens, la première fois que, quand je suis arrivé à Fribourg, aussitôt la guerre, il y avait des Français qui étaient là en situation illégitime, qui avaient passé la frontière pour être dans la paix, le calme, mais le lendemain, ils vont trouver une situation. Donc, de fait, ils n'avaient pas le droit d'être là. Alors ils venaient trouver des pères français et leur demander d'être comme parrain politique, un parrainage. Ce qui était assez normal, parce qu'alors à ce moment-là, si le gars tombait malade, on en prenait la responsabilité. Si le gars faisait une bêtise, on en prenait la responsabilité. C'était une adoption politique. Alors je me souviens, très vite, peu de temps après j'étais là, quelqu'un est tombé, c'était un Français, il m'a dit, est-ce que je peux dire que vous êtes là, que vous me connaissez, vous me parrainez? J'ai dit oui, j'ai signé. Alors l'autorité civile m'a renvoyé, vous êtes religieux, votre signature ne signifie rien. Il faut la signature du supérieur derrière la vôtre. Parce que vous comprenez bien que vous êtes chargé de lui au point de vue pécuniaire. Vous ne devez pas avoir d'argent de religieux. C'est le supérieur. Vous voyez ça, pas beaucoup en France. Pas habitué à ça. Ça, au Moyen-Âge, c'était comme ça. Il y a vraiment, c'est comme ça, parce qu'il y a une alliance entre l'État et le point de vue Église. Donc vous voyez la différence entre l'obéissance du citoyen qui regarde les lois légitimes, je dis bien les lois légitimes, les lois qui ne sont pas légitimes, on n'a pas à obéir. Vous n'avez pas à obéir aux démons. Vous n'avez pas le droit d'obéir à des lois illégitimes. Vous devez vous faire éclairer, hein, quand vous ne savez pas. Vous faire éclairer dans quelle mesure cette loi est-elle contre la morale. Dans quelle mesure cette loi est-elle illégitime. Non, là, vous n'obéissez pas. Mais l'obéissance du citoyen, ça regarde les lois. L'obéissance de force externe, au point de vue religieux, c'est plus, c'est l'aspect familial. Sens de fort interne. Vatican II n'a pas du tout supprimé l'obéissance. l'obéissance avant était une obéissance verticale. La guillotine, on coupe la tête proprement. Et vous devez continuer de marcher portant votre tête. Verticale, mais on ajoutait type féodal. L'obéissance après maintenant, depuis le concile, est une obéissance horizontale. Alors on a expliqué, on obéit en vue du bien commun. Et on n'obéit plus à une autorité, mais c'est en vue du bien commun. Alors c'est une obéissance démocratique. Et puis alors la démocratie qui fait qu'on est tous égaux, mais on regarde le bien commun. Alors cette obéissance consiste à dire, vous voyez, il y a le matin, on met une liste, aujourd'hui il y a telle charge, telle charge, telle charge, telle charge, chacun choisit. Et les charges qui ne sont pas choisies, je ne sais pas ce qu'on fait. Ce qui arrive, ils ont mis ça ici, venez. Mais c'est au petit déjeuner, il y aurait ça. Alors il y en a qui mettraient très longtemps pour être civilisé pour qu'ils arrivent quand tout est pris. Là, vous avez la conscience, tranquille. Il y aurait à la fois les premiers pour bien choisir et les derniers pour tomber dans le lac. Alors vous voyez, ça c'est faux. L'obéissance avant le concile, après le concile est la même. L'obéissance implique toujours une autorité. Tout le temps. Ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que l'autorité en vie chrétienne et dans la vie religieuse doit s'exercer sous la mouvance de la charité. Et c'est un petit peu comme la justice sociale, vous savez. La justice, le point de vue de la justice sociale au point de vue chrétien. C'est pas une nouvelle justice, mais c'est simplement la charité qui transforme la justice habituelle, la justice légale, la justice répétitive, la justice. Comme la première, celle qui est immédiate. Alors, c'est la charité qui les transforme. Il n'y a pas de nouvelle justice. De même, si il n'y a pas de nouvelle obéissance, il y a un nouveau type d'autorité. Mais on doit exercer l'autorité, ce que nous disons dans la règle, à la manière de Saint-Joseph. Ça, c'est tout à fait concilié. C'est-à-dire qu'on obéit, on exerce l'autorité d'une façon paternelle. Ou d'une façon maternelle, pour le bien du sujet, aussi pour le bien commun, c'est évident, le bien commun exige, mais c'est aussi pour le bien du sujet. On ne regarde pas seulement le bien commun et la fonction en vue du bien commun, on est attentif au bien du sujet. Alors, c'est un exercice d'autorité qui, à ce point de vue-là, est évangélique. Et dans le mode de transmettre, on n'est pas dans une attitude tranchante, mais on fait attention aux difficultés qu'il peut y avoir. Et d'autre part, si on est en face de certaines résistances, quelquefois obligé d'exercer l'autorité d'une manière plus impérative. Parce que certains comprennent ce caractère impératif. Si on prend un caractère de demande, il faudrait bien que vous fassiez ça, je crois que ce serait bien pour votre sainteté et la sainteté de tous les autres. Ouais, qu'on ne comprend pas. Non, je ne veux pas changer. À ce moment-là, on peut dire très bien. C'est à ce moment-là, quand il s'agit d'un prodigieux, il commence à croire, à comprendre. Il dit, non, pas ça du tout, je vous le dis, non, pas ça, je vous le dis. Et puis, on lui donne l'obéissance. Et donc, il faut bien comprendre la place du dialogue dans l'obéissance. C'est justement permettre à l'obéissance d'avoir une manière d'exercice qui est dans la charité. Ce sont des liens de charité qui dominent. Et le lien d'autorité est au service du lien de charité et non pas l'inverse. Parce que c'est directement l'écriture. bien comprendre, parce que c'est celui-là qu'on voit le moins. La volonté du Père. Obéir à la volonté du Père, c'est notre nourriture. Et ça nourrit notre espérance. Je me souviens avoir prêché au Togo, au foyer de charité. C'est une retraite des prêtres. Je suis tombé devant un jeune prêtre qui, de fait, me parlait de combien il avait de la difficulté à croître dans l'espérance. Alors, on a causé un peu ensemble et je lui ai demandé, en fonction un petit peu de ça, est-ce que dans votre vie, l'obéissance a une grande place ? Il m'a regardé, très étonné. Il me dit, mais mon père, je n'ai jamais obéi de ma vie. Ah, dit, non, je n'ai jamais obéi de ma vie. Parce que vous voyez, quand j'ai fait mon séminaire, j'étais considéré comme très intelligent. Alors on me demandait conseil. Donc je n'obéissais pas, parce que ce que je donnais comme conseil, c'était ce qu'on faisait. C'est très facile. Puis après, encore, c'est comme ça, parce qu'un évêque m'aime beaucoup. Mais il me demande conseil tout le temps, je n'obéis pas. J'obéis jamais. Il dit, alors voyez, vous ne nourrissez pas votre espérance, votre espérance. Là, c'est pas étonnant. Il y a un lien très grand entre l'obéissance et l'espérance. Puisque l'obéissance nous lie à l'autorité. Et l'espérance nous a fait nous accrocher aux promesses de celui qui a autorité sur nous. Et nous fait nous appuyer sur les promesses de Dieu. Et nous fait faire que ces promesses de Dieu deviennent notre vie et notre vie. Dans l'éducation, on doit laisser, il doit y avoir une coopération. dans le dressage, il n'y a pas beaucoup de coopération. Mais le dressage, c'est quelque chose qui est extérieur. C'est d'ordre artistique, le dressage. On impose de l'extérieur au pauvre éléphant de jouer de la musique. Non, il n'est pas fait pour ça. Mais ce qu'on voit dans les cirques, c'est des grosses pattes d'éléphant. Ça vous reste jusque dans toute votre vie. Parce que ça fait des fantasmes extraordinaires. Et alors, c'est pas du tout de l'éducation, c'est un dressage. C'est extérieur, ça signifie rien. L'éléphant ne devient pas plus intelligent parce qu'il a été dressé. Non. Au contraire, il est plus abruti. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés à ce que je viens de dire? Est-ce que c'est des réponses, il faut qu'il y ait... Oui.
Thank you. Jésus-Christ, il a appris l'obéissance à la chose qu'il a souffert.
Oui.
Vous pouvez l'expliquer.
Ben oui, parce que les choses qu'il a souffert, il les a portées dans la charité. Oui. Le témoignage de l'amour, c'est d'accepter de pâtir pour celui qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Donc, c'est la manifestation de l'amour. Et oubliez, je dis bien qu'il y a un lien plus direct. Il y a un lien indirect. Ça, c'est sûr. C'est normal, tu vois, notre espérance et charité, tous les deux sont reçus dans la volonté. Et la différence, c'est que l'un regarde le bien absolu et l'autre le bien promis. Donc c'est très proche, c'est très très proche. La vertu de charité et la vertu d'espérance. Tous les deux regardent le bien. Un bien promis qu'on ne possède pas, un bien immédiat, un bien pris en lui-même. Oui. À la virginité, plus ça fait ça. Non, l'esprit de virginité, tu as sauté quoi, l'esprit de virginité, c'est toujours relié à la foi. Pourquoi? Parce que c'est la pureté du cœur. Et la pureté du cœur est nécessaire à la béatitude de l'esprit. Voyez, c'est l'esprit de chasteté, l'esprit de virginité permet de recevoir les secrets. C'est donc la foi dans ce cas-là de tout à fait mystique, divin, qui nous permet de vivre les secrets. Ça, c'est constant. Et je comprends bien que le point de vue de l'esprit de virginité, un manque d'esprit de virginité empêche de voir une foi contemplative. La foi de ma foi contemplative, toi du nom. Et c'est le don d'intelligence qui purifie l'exercice de la foi, bien nous relie comme lui.